Vous écoutez RTV FM 102.2. Bonjour, c'est Dominique. Bienvenue dans Jazz de Cœur, l'émission dédiée aux amoureux du jazz et aux autres aussi. Aujourd'hui dans Jazz de Cœur, nous allons parler de la basse électrique, son histoire, quand et comment est-elle apparue dans le milieu du jazz. Et bien sûr, on va écouter les bassistes les plus fameux. Et pour ça, nous avons avec nous Christophe Pontier. Salut Christophe.
Salut à tous, merci de m'accueillir dans le studio, dans ce nouveau studio.
Ben voilà, c'est avec plaisir, parce qu'il faut dire que c'est pas la première fois que tu viens.
Non, c'est la première fois que je viens tout seul, mais c'est vrai que normalement je viens avec mes acolytes. Mes amis de toujours.
Voilà, alors pour vous présenter, Christophe, il est bassiste et joue dans le groupe Fustet.
C'est ça.
Et passionné qu'il est, je sais qu'il avait envie de faire une émission sur le thème de la basse électrique.
Oui.
Alors c'est ce qu'on va faire ce soir. Voilà, parle bien en face du micro.
D'accord, je me cale bien dans l'axe.
Voilà. Alors Christophe, quand et comment est apparue la basse électrique ?
Alors la basse électrique, alors il y a eu plusieurs prototypes qui sont apparus dans le début du XXe siècle. Mais bon, le premier prototype électrique, c'est donc un inventeur qui s'appelle Paul Turmak. Donc je crois que c'était en 1933,
oui.
C'est un inventeur américain qui malheureusement lui ne déposera pas le brevet pour les micros, donc
ça a capoté
bon. Ça a fait le bonheur de monsieur Leo Fender,
voilà, qui est le premier
à avoir commercialisé, à fabriquer des basses en série, ouais. Donc voilà, 1951, l'avènement de la basse électrique.
Voilà, donc, oui, parce que c'est apparemment c'était pas très évident à faire.
C'est pas très évident à faire. Déjà, pour lui, il a bénéficié du travail des autres.
De ses prédécesseurs. Ouais,
exactement. Ah, donc, c'est un gros avantage. Ah, oui. Il est parti sur un modèle quand même d'une guitare qu'il fabriquait, qui était la Telecaster, donc au niveau du corps.
Mm-hmm.
Et puis, bon, voilà, un manche plus long, quatre cordes, et puis c'est parti, hein.
Ouais.
Donc l'avantage, c'était bien sûr pour un instrument comme la basse électrique, c'était bon, l'époque aussi du rock'n'roll et des avènements du rock'n'roll,
oui,
en tout cas.
Du blues.
Si, ouais. Donc il fallait un instrument où on pouvait checker, bouger.
Voilà, d'accord. Oui,
puis c'est un instrument qui pouvait vraiment se promener.
Qui pétait plus qu'une contrebasse, quoi.
plus qu'une contrebasse, surtout quoi, à l'époque, au niveau des micros, pour la contrebasse, c'était un peu chance, c'est vrai.
Ouais.
Mais voilà, donc il a fait un super travail et donc voilà, on a commencé à jouer à l'horizontale, à sauter dans tous les coins de la scène. et donc voilà, l'instrument a eu un super départ grâce à Léo, qui en a fabriqué donc toute sa vie.
Oui. Voilà. D'accord, et après d'autres constructeurs ont suivi, je suppose.
Oui, alors là, oui, bien sûr.
Le produit a évolué.
Voilà, d'autres constructeurs ont profité du travail de Léo. Et bien sûr, un tas de basses différentes et tout aussi bien et moins bien aussi pour certains modèles.
Oui, voilà, c'est exactement. Oui.
Donc.
Mais bon, on peut quand même dire que malgré toutes les évolutions, la Fender garde sa place,
ouais, la Fender,
dans la basse électrique.
La Fender Précision,
ouais,
hein,
c'est ça,
pour
la
donner
précision,
un nom, la Fender Précision, qui était la toute première basse, la télébasse même, elle s'appelait. Ensuite, jusqu'en 1960, où là, il a parféré son travail en créant la jazz basse.
Mm-hmm.
Voilà. Et donc de là sont arrivés les basseros que nous allons présenter.
Voilà, oui. Alors, vas-y, parle-nous un peu des plus grands, des premiers bassistes électriques, les plus illustres.
Alors, les bassistes illustrent dans le jazz.
Oui, fusion. Dans le jazz.
Voilà, parce que sinon, il y en a eu, bien entendu, bien avant. Hein.
Oui.
Mais donc, pour le jazz fusion, on peut parler déjà de Jaco Pastorius.
Ah oui.
Je crois que... Bon, alors, Jaco Pastorius, ce n'est pas un légionnaire romain. Donc, c'est un des plus grands bassistes électriques. De sa génération, de ce mouvement musical.
Mmh.
Et voilà, c'est une icône une icône, pardon, de la plus haute importance.
Voilà, alors tout à l'heure, hors antenne, je te disais que, à mon sens, c'est lui qui a changé la destination de la basse électrique en faisant non pas un instrument uniquement rythmique, mais en prenant des choristes dessus. Et toi, tu m'as dit non, pas tout à fait.
Ben, disons que c'est pas le premier bassiste à pris des chorus avec une basse électrique, heureusement.
Voilà.
Non. D'accord. Lui, il a...
Moi, c'est ce que je croyais.
Ah oui, non. En fait, c'est le style lui-même. C'est le jazz qui fait que, bon, forcément, le propre de cette musique, c'est l'improvisation. Oui. Donc, tous les musiciens, là, forcément, on n'est plus cantonné en tant que bassiste à l'accompagnement. Mmh. Et donc, voilà, tout le monde fait des solos, des chorus.
Voilà, mais bon.
Basto, en plus, lui, il a transformé son instrument. Il l'a défraité, donc il a arraché ses petites barrettes en fer, là. Il a mis de la résine dessus pour se rapprocher d'une contrebasse, un son plus jazz.
D'accord, c'est Pastorius qui a défrété la.
Oui, c'est lui qui a défrété.
Sa contrebasse.
Non, sa basse.
Sa basse, pardon.
Sa basse électrique, voilà. Et il n'a pas frété de contrebasse, hein, je tiens à préciser. Il n'est pas allé jusque-là. Mm. Oui, voilà. Donc,
Pour expliquer, parce que bon, les auditeurs comprennent peut-être pas forcément notre langage un peu technique. Les frettes, c'est les petites barrettes qu'il y a sur le manche qui servent à repérer les.
Oui, qui servent à repérer les notes sur le manche. Voilà.
Voilà, alors le fait d'avoir défrété, ça veut dire qu'il a enlevé ces petites barrettes qu'il y avait sur le manche.
Voilà.
Donc, ça donne
donc
un manche.
Donc, d'un coup, on ne joue plus à l'oreille, on a plus ces repères visuels. Quoique, en défrétant, il reste quand même une marque.
Oui.
Et on joue sur cette marque au lieu de jouer entre les marques. Mmh. Entre les frettes, quoi, plus précisément. Et voilà, donc ça. Et puis le son est devenu. Voilà, le son de la basse fretless par Jaco Pastorius.
Bon, et eh ben si on. Je pense qu'on pourrait commencer notre histoire en l'écoutant, justement.
En l'écoutant, et peut-être faire une émission sur lui prochainement.
Ultérieurement,
plaisir. Parce que là, il y a de quoi faire. Hein, parce que là, on va juste écouter un morceau de Jaco Pastorius.
Voilà, alors ce morceau, c'est A Portrait of Tracy. Donc, Tracy, c'était une de ses femmes, c'est ça?
Oui, je crois que c'est sa première épouse, il me semble. Hein.
Voilà. Alors, je précise que c'est toi qui as travaillé sur cette émission et qui a fait la playlist.
Oui, j'ai fait la playlist de cette émission.
Voilà, moi je me suis contenté de.
J'ai essayé de réunir les all-stars de la basse électrique dans la jazz fusion. Je dis all-stars parce que pour la plupart sont américains.
Ouais.
Oui, les super-héros sont souvent américains. Et oui.
Voilà. Alors bon, mais voilà, je voulais apporter cette précision. C'est Christophe qui a travaillé sur cette émission, c'est pas moi. Moi je ne me contente de l'animer. Alors, on écoute Jaco Pastorius, A Portrait of Tracy.
Thank you.
le style particulier de Jaco Pastorius, donc un solo de basse électrique. Mmh. Alors voilà, donc qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme, comme bassiste illustre?
Alors dans, à la même époque dans un groupe illustre, il y avait Stanley Clark. Il y a encore Stanley Clark, parce que Stanley Clark est encore avec nous, est encore vivant. Et donc Stanley Clark, lui, il est né en 1951 à Philadelphie. Bon, alors lui, il a la particularité d'être contrebassiste et bassiste.
Ah.
Reconnu, aussi fort, aussi brillant dans l'un que dans l'autre. Il est aussi fort, quoi. Il est vraiment exceptionnel, même dans la contrebasse. Pour ceux qui ne connaissent pas, je les invite à aller écouter sa discographie et vous vous rendrez vite compte que c'est vraiment un phénomène. Alors lui, il intègre, il a un parcours musical assez impressionnant, mais il intègre Return to Forever, qui est vraiment le groupe qui va le lancer dans ce mouvement, qui est le jazz rock. Donc Chick Corea lui demande, parce que quand il intègre, pour la petite anecdote, quand il intègre le Return to Forever, Chick Corea lui dit, mais mon gars, il joue encore de la contrebasse à ce moment-là. Mm-hmm. Il dit, il faut que tu te mettes à la basse électrique. Lui, la basse électrique, non. Il a une grande forme, une grosse formation classique. Là, c'est un gars qui est diplômé de violoncelle, de contrebasse, et qui est un joueur vraiment d'instruments dit classique, et pour lui c'était une évidence qu'il allait intégrer le Return to Forever avec la contrebasse. Et Chick lui dit non, tu joues de la basse électrique. Dans un premier temps il refuse, mais donc Chick lui fait bien comprendre que s'il joue pas de basse électrique, il ne joue pas avec Return to Forever. Donc à ce moment là il est très jeune, il sent que c'est ici et maintenant que ça se passe. Il se met à chercher une basse qui lui convient. Donc, il trouve une Alambic, une super marque prestigieuse, luxueuse, très beaux instruments. Quatre cordes aussi, comme Jaco, mais pas fretless, par contre, lui, fretté.
D'accord.
Parce qu'il joue de la contrebasse sur certains titres, certaines parties musicales aussi. Parce que il y a une partie acoustique qui viendra ensuite avec Return to Forever. Mais dans un premier temps, on est dans le jazz électrique. Il joue de l'alambic, donc cet instrument magnifique. Comme je le précisais juste avant, vu qu'il n'avait pas le choix, Pusher.
Oui.
Donc, c'était pas un problème pour lui. Hein.
Il s'est adapté. Bah, si on écoutait à quoi ça ressemble.
Je veux bien.
Alors, le titre, c'est School Days. C'est le titre du morceau ou du
School Days, c'est le titre du morceau et de l'album éponyme. Voilà. Ouais.
Ah bah, on écoute.
Allons-y. We'll be right back.
C'était donc Stanley Clark qui jouait un morceau qui s'appelle oui. School Days.
School Days, tiré d'un album de Stanley Clark. On n'est pas avec Return to Forever parce que j'ai parlé de Return to Forever.
Ah, d'accord. Avant.
Là, ce n'est pas du tout, ça n'a rien à voir. Hein. C'est, il y a eu une carrière solo comme tous ces grands que l'on va citer ce soir. Donc cet album-là, oui, School Days, un standard pour les bassistes électriques. Je pense que tous les bassistes électriques dignes de ce nom ont essayé de jouer ce morceau à un moment donné.
D'accord. Alors le musicien suivant, quand j'ai prononcé son nom, tu as crevé le faux plafond. Tu as fait un trou dans le faux plafond du studio.
Excuse-moi, je suis un peu pris. Ouais. Oui. C'est Jeffrey Arthur Berlin, c'est Jeff Berlin. Alors ouais, alors là c'est encore un extraterrestre. Encore un coup des extraterrestres. énorme. Alors, vraiment, encore un gars de la même génération que Jaco et Stanley Clark. Hein. Jaco et Stanley, pour l'anecdote, sont nés en 51, la même année que la basse électrique.
Oui. Ah oui. Ah oui.
Je ne sais pas si c'est un hasard ou un mouvement comme ça qui est né voilà, avec des gens concernés, habités. Par cet instrument, mais enfin bref, voilà, pour dire, bon, revenons sur Jeff Berlin, ah, Jeff Berlin, voilà, alors là, c'est... Bon, c'est un gars passionné, qui a 200% dans son art, qui est enseignant, critique musicale, bon, musicien évidemment, quoi que dire, il est surdoué, il a aussi œuvré sur sa carrière de soliste avec des pièces magnifiques, notamment je pense à Dixie, qui est un des morceaux les plus durs à jouer pour un bassiste très très compliqué, dans une technique assez hallucinante. Et puis donc, bon, alors Jeff Berlin, lui... Excusez-moi. donc Jeff Berlin, lui, bon, ben, c'est vraiment un super gars, un super bassiste. Donc il a joué avec comment il s'appelle déjà ? J'ai un trou là. Excusez-moi.
Ah. Non, c'est pas grave, ça arrive.
Donc Jeff Berlin, donc il est né à New York, hein, dans le Queens.
Oui.
Je pense comme celui qu'on va découvrir juste après. Et donc, ouais, c'est un sideman. Il a joué dans de multiples formations, mais une très belle carrière solo. Et il s'est investi aussi dans la pédagogie, chose que, au moment de manière, il a créé une école en Floride, je crois. Super musicien, d'une humilité incomparable. Et il joue avec un instrument cheap, hein, comparé aux autres, quand des instruments à. Je pense à Stanley Clark, qui a un instrument à plus de, je sais pas, plein de 10 000 euros, je crois, sa basse. Ouais. Il a une basse à 1 000 euros. Quoi.
Ah oui, d'accord.
C'est un instrument qui, est, voilà, qui a beaucoup d'humilité. Ouais, il joue sur son instrument, la rythmique de chez Cort. Donc c'est vraiment, c'est un instrument que on peut presque tous se payer. Ouais,
d'accord.
Ouais.
On écoute. Alors
donc,
c'est
un album qui s'appelle Champion. Le label c'est Passport Jazz, on n'a pas parlé des labels juste avant, il faut aller tellement vite là que on oublie plein de choses.
Oui.
Donc il est de 85, bon c'est totalement fusion, c'est Jeff Berlin and Vox Humana et le morceau s'appelle 20,000 Prayers.
Alors c'est parti.
Avec Scott Anderson et tout, c'est excellent. Vous allez voir.
Allons-y.
Thank you.
Jeff Berlin, 20,000 of Prayers. C'est vrai que c'est assez énorme.
Oh oui, toute sa carrière est comme ça. C'est vraiment un gars en plus qui est vraiment, je le disais, impliqué dans la pédagogie. Il a créé la Player School of Music en Floride, à Clearwater. On le retrouve régulièrement à écrire à piger des articles pour Bass Player Magazine. Mm-hmm. Il est partout, quoi. Et il a une carrière monstrueuse. Mm. Monstrueuse. Une anecdote à Jean Lépin, lorsqu'il jouait avec le McLaughlin Trio, sur un magnifique chorus, il a eu une ovation debout, une standing ovation du public de Jean.
Ah oui.
Chose qui n'arrive pas tous les jours.
C'est vrai.
Pas tous les festivals, en tout cas.
Voilà, alors on va continuer à avancer. Hein, bon, ben là, pour situer un peu pour les auditeurs, est-ce qu'on peut parler d'un milieu où jouaient ces joueurs de basse électrique? Est-ce qu'on peut parler de l'avènement de ce qu'on appelait le jazz rock ou le jazz fusion dans les années 70-80?
Oui, l'avènement, c'est fin des années 60.
Oui, voilà, oui.
Avec, bon, Miles Davis en chef de file.
Ah oui.
Miles Davis en chef de file, avec l'album In a Silent Way, je crois qu'on est en 67-68, qui sont les années de début des années 70, hein, mm-hmm. qu'à voir comme s'habillaient les gens à l'époque, la musique électrique a démarré vraiment en 67-68, le jazz électrique, pardon, avec Beaches Blue, derrière, toujours Miles Davis. Et puis Weather Report, le Mahavishnu Orchestra de McLaughlin, je cite les grands groupes qui me viennent là à l'esprit, les groupes phares de ce mouvement,
oui.
Return to Forever bien entendu. En France on a eu quelques groupes comme Magma. Quand même, on peut citer Magma, on peut citer Troc aussi un peu moins connu, avec le bassiste Yannick Top. Mmh. Super groupe, très intéressant, vraiment, ouais, avec André Tchekari à la batterie, Lingerwood, je ne sais plus son prénom, Alex Lingerwood, il me semble, au chant, et il m'en manque un, mais ça c'est voilà, à découvrir, Troc.
Ouais. Alors, le musicien suivant, est-il besoin d'encore le présenter?
Alors là, c'est une méga star.
Oui.
Une méga star, c'est William Henry, Marcus Miller Jr. Mmh. Donc, compositeur, bassiste de jazz et pas que, hein, de funk, de pop, de world. Enfin, voilà, c'est le gars qui brasse toutes les musiques.
Il est toutes les fêtes.
Il est toutes les fêtes, il a bien raison. Donc, il est né à Brooklyn, hein, en 59, il est un peu plus jeune. Que tout ce qu'on vient d'écouter, tous les super acteurs de cette musique que l'on vient d'écouter. Bon, c'est vraiment le plus funky des bassistes. Voilà, moi j'adore.
Oui. Moi
c'est,
aussi, ouais.
C'est vraiment.
Et puis on le voit partout, quoi.
On le voit partout, voilà, en ce moment on le voit avec Selassou.
C'est ça, ouais.
D'ailleurs. Oui. Non, il est vraiment. Il a des oreilles partout. Il est vraiment toujours. Il a un peu la démarche qu'avait Miles Davis. Hein,
oui, de faire toutes les expériences.
Voilà, suivre les courants musicaux actuels, contemporains, et à s'en inspirer, à se mélanger. Imaginez sa personnalité avec ces sons-là.
Puis ce qui fait plaisir, c'est qu'il a l'air très accessible, qu'il est vraiment dans tous les festivals.
Il est
en contact avec le public.
Et oui, toujours en contact avec le public. Il a adoré. C'est un super gars. C'est un personnage attachant sur scène, quoi. C'est un showman, mais sans plus, quoi. Mais quand même. Hein. Voilà, donc le slap, hein, technique. Lui, c'est le slap. Le plus beau son de jazz bass slappé, je crois que c'est lui. Son de cristal, on entend toujours tout. C'est toujours très propre. C'est incroyable, quoi.
Alors, le morceau que tu as choisi?
Le morceau que j'ai choisi s'appelle Panther.
Ouais.
Donc, il est issu de l'album The Sun Don't Lie chez Dreyfus Jazz. C'est de 1993, la sortie de l'album. Voilà, Panther, magnifique, magnifique morceau.
Eh ben, on écoute. We'll Voilà, donc c'était Marcus Miller.
Marcus Miller, oui, dans sa superbe période, juste après sa période Miles Davis. Mm-hmm. Un titre phare, un album phare surtout de sa carrière solo. Il a quand même contribué à la carrière de Miles aussi d'une manière importante avec l'album Amandla et Toutou. Mm-hmm. Hein, où c'est lui, je crois, qui a dirigé cet album, qui était directeur de la production de cet album. Super artiste qu'on est toujours heureux chaque année de retrouver dans les plus beaux festivals.
Bien sûr, et ça ne manque jamais, il est toujours là, toujours présent.
Il est toujours là, ouais, c'est super.
Alors continuons avec ces bassistes électriques. Tu voulais nous parler maintenant de John Patitucci.
Alors John Patitucci, bien sûr. Alors à l'instar de Stanley Clarke, qui est encore un contrebassiste et bassiste.
Ah.
Voilà. Mmh. Vraiment aussi fort dans l'un que dans l'autre, qui est vraiment hallucinant. Donc lui, c'était un musicien de studio à la base, qui a intégré, le grand moment de sa carrière, c'est quand il intègre l'Electric Band dans les années 80. Il est né en 59, vite fait, à New York aussi. Mmh. Même année et même ville que Marcus. L'Electric Band, encore un groupe phare des années 80, c'est l'après Return to Forever.
D'accord.
Donc il fait partie vraiment des premiers membres, hein. Il était présent dès 86.
Ah oui.
Dans le groupe. On lui joue sur une 6 cordes, qui concerne la basse électrique, et sur une 5 cordes en ce qui concerne la contrebasse.
Bon.
Voilà.
Eh ben, on y va. On écoute, le morceau s'appelle Change of Seasons, c'est ça?
C'est ça.
Ah, on écoute.
Tiré de son album John Patitucci. We'll be right back.
Voilà, John Patitucci, très joli. Alors ça, c'est fusion en plein, ça, Christophe.
Ce morceau, donc extrait de l'album éponyme John Patitucci. L'album est sorti le 2 novembre 2005. Oui, là, on a vraiment le son du label GRP. Mmh.
Voilà. Alors, le musicien suivant ça, dont tu veux parler s'appelle Alain Caron.
Alain Caron.
C'est un nom français, ça?
C'est un nom français, il est francophone, attention.
Ah, mais il est pas français?
Non, il est québécois.
D'accord.
Il est québécois, il est très important dans ce mouvement, dans ce style musical. Donc Alain Caron, il a entrepris sa carrière à 11 ans, il a participé à plein de concours, il a été très très ambitieux, c'est un gros gros bosseur. C'est un gars, pour la petite anecdote, qui n'a pas eu de vie sociale avant 30 ans.
Ah bon?
Il a fait que travailler, composer, travailler son instrument. C'est vraiment quelqu'un à ce niveau-là de jusqu'au boutiste, presque religieux, quoi, pour son art. Voilà, donc Alain Caron. Bon, Alain Caron, c'est Uzeb, hein, bien entendu.
Ah oui.
Bien entendu. Même si on ne va pas écouter ensuite un morceau extrait d'un des albums du Zeb, voilà, c'est un des groupes phares de la fusion. Là, on touche vraiment à quelque chose d'exceptionnel, à un groupe vraiment fantastique, un trio fantastique. Donc Alain Caron, bon, c'est quelqu'un d'intellectuellement bien constitué aussi, hein, parce qu'il est docteur en musicologie.
Ah bon?
Oh oui, et très très pointu dans tout ce qu'il fait. Et donc voilà, on peut écouter, si tu veux, le prochain titre qui s'appelle, donc qui est extrait de l'album Alain Caron le Band. Le titre de l'album, c'est Play, et le titre du morceau extrait, c'est Decode.
Allez, on écoute. We'll be right back. Alain Caron, trop bien. Alors, quand j'ai prononcé le nom du bassiste suivant dont tu veux parler, j'ai vu ton visage s'illuminer.
Ouais, alors là encore un extraterrestre, encore un super-héros de la basse, vraiment. Mmh. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je sais que... Comment il s'appelait déjà ? Un dessinateur de comics, excusez-moi, je ne parle pas devant le micro, ça doit être un peu bizarre là.
Ah oui.
il a été, son visage a été repris sur un des comics de Amazing Spider-Man. Parce que, bon voilà, c'est vraiment un super héros de la basse. C'est Victor Lemon Wooten, donc, qui est né le 11 septembre 64 à Mountain Home dans l'Idaho. Bon, c'est un phénomène. Il est issu d'une fratrie de musiciens. Donc son frère est guitariste, l'autre est batteur. J'en oublie certainement un autre. Il apprend la basse à 3 ans déjà, pour vous donner une idée. Je crois que c'est là, c'est vraiment phénoménal. Il forme un groupe, donc les Wooten Brothers, le Wooten Brothers Band. Mmh. Avec Reggie, Rudy, Roy, Joseph et Victor. Voilà, avec lequel il joue de nombreuses années. dans les années 70, il était tout jeune, hein, parce que bon, Victor, il est né en 64, c'est ça, j'ai dit 64. Voilà, donc dans les années 70, il était pas très vieux, mais déjà à 10 ans, il était sur scène. Bon, voilà, ouais. il est doué, il est doté d'une technique incroyable de pouce aller-retour. Il sert son pouce comme un médiator. C'est un des premiers vraiment à faire ça. De façon si fulgurante. Bon, comme tous ceux qu'on vient d'écouter, il a une carrière en solo phénoménale, mais aussi en sideman. Il a commencé avec Bella Flex and the Flextones, qui est un groupe de country jazz.
Ah, bon.
Très original. Oui, avec, parce que Bella Flex est un joueur de banjo.
Bah dis donc, il a fait du chemin depuis.
Il a fait du chemin depuis, oui. Je l'ai vu personnellement avec le SMV, donc ce fameux trio S pour Stanley, M pour Marcus et V pour Victa. Et je les ai vus à Jean Lépin, c'était magique. De toute façon, pour voir Victor Wooten en France, c'est un peu compliqué, à moins d'être sur Paris. Mmh. Il ne passe jamais en province, ça je crois qu'il n'est pas passé depuis 2008, l'année où je l'ai vu à Jean. Voilà, donc là...
On écoute,
allons-y.
Alors c'est comme...
Nous commente.
Quel est le titre ?
Alors, le titre de cet album.
Le titre.
Cet album, c'est. Soul Circus. Oui. Extrait de l'album Soul Circus.
Bon, alors, on écoute.
Nair.
What?
Yeah.
Énorme Victor Wooten.
Ah, ça groove, c'est voilà quoi, c'est super à découvrir pour ceux qui connaissent pas sa carrière immense. Il était classé par Bass Player Magazine parmi les 5 plus grands bassistes de tous les temps. Tous les bassistes qu'on a passés là, ce sont des compositeurs, des grands solistes, c'est vraiment des phénomènes, des gens qu'on croise rarement dans le milieu de la musique. Plus avec humainement, Victor Wooten est très investi aussi, je voulais le souligner, dans la pédagogie. Chez lui, il fait il a créé des bass camps, c'est-à-dire que donc c'est des si vous voulez des stages de basse au camp et nature, donc où on apprend à jouer bien sûr de la basse avec sa méthode et bien sûr aussi à se sensibiliser à la nature, à l'écologie, ces choses là.
Bon, ben écoute Christophe,
ça va tellement vite que j'en bafouille. Oui, je sais que j'ai pas le temps, j'ai une pression squashé, excusez-moi.
L'émission tire à sa fin, c'était hyper intéressant, mais une heure ça passe vite. On a plus qu'un morceau à écouter, et encore on pourra pas l'écouter en entier.
Ah, c'est la French Touch. Alors là, c'est la French Touch, c'est la New Generation, Born in the 80s. C'est Adrien Ferraud. Alors voilà, attention, le super bassiste vraiment français du moment. Hein. Il y en a eu d'autres, juste tout à l'heure, Yannick Top. Je pense aussi à. Comment il s'appelle aussi Adrien Ferraud, excusez-moi. Ouais. Dominique Di Piazza, avec qui il a pris des cours, parce que bon, c'est quand même un gars qui a été autodidacte pour le début de sa carrière et son apprentissage. Avec quelqu'un qui n'est passé par aucune école, il a simplement bossé à un moment donné Pastorius. Le jour où il a écouté Pasto, ça a changé sa vie. Il a pris une basse, il s'est mis à travailler à fond le style. Et voilà, on va écouter un morceau tiré de son album Adrien Ferraud, encore éponyme. Nature, extrait hein. de son album Adrien Ferraud, ça s'appelle Natural.
Natural, voilà.
Voilà. Bon, avec Damien Schmitt à la batterie, qui a aussi un phénomène, la batterie, un français. Qui est énorme, qu'il faut écouter avec Damenko d'ailleurs.
Voilà, puis on en profite, j'ai bien du mal à arrêter Christophe. on en profite pour vous dire au revoir en même temps, parce que l'émission va bientôt finir.
C'est pas évident.
Oui,
c'est grand
plaisir. On reviendra.
J'ai passé un super moment.
On voulait aussi vous parler de Richard Bonnat, de King Gagliic.
Richard Bonnat, tout ça. Il y en a plein que j'ai pas cité. Oui. Il y a des grands bassistes, quoi. Je sais pas, Benny Brunel aussi, encore un Français qui vit aussi à Los Angeles, à l'instar d'Adrien Ferraud, Alfonso Johnson, Victor Bailey, Michael Menring, Matthew Garrison.
Eh ben Christophe, ça sera pour une autre fois. Voilà, on va dire au revoir à nos auditeurs.
Voilà, je salue. Je voulais passer un petit coucou quand même à ma chérie Séverine, à mon fils Nils, Solem, et puis voilà. Mes potes Ben, Hugues, Olivier, Raph, tout ça.
Voilà, salut à vous, et pour ma part, je vous dis à dans 15 jours. D'ici là, restez jazzy. Voilà, dernier morceau, Adrien Ferraud, Natural. Au revoir. Bye.
Bye.